C'est maintenant le moment de partager, d'ouvrir cette session d'été. On a fait toute cette année, on a traversé la belle lettre de Corinthiens, émaillée ici et là de quelques dimanches spéciaux. Et pour ces vacances, on va traverser une partie des psaumes. Une psaume qui nous appelle ce matin. Alors vous l'avez déjà entendu dans l'introduction. C'est des psaumes qui nous invitent à la fête et à la joie. On est dans un monde qui aime la fête. La société aime faire la fête. Et peut-être, c'est peut-être une manière de pallier à la morosité qui peut nous envahir assez vite. Faire la fête, créer des fêtes. Il y a des fêtes partout. Fêtes de Noël, fêtes de fin d'année, fêtes des rois, fêtes de la rentrée, fêtes du printemps, fêtes des mères, fêtes des grands-mères. Des fêtes de partout. Quand on regarde, on aime faire la fête. Dans un sens commercial du terme aussi, fête des amoureux. On aime faire la fête pour se rappeler que finalement, au fond, quand on creuse un peu, eh ben, on est des gens qui peuvent rapidement, notre société peut rapidement tomber dans une morosité. Donc, il faut de la joie un peu éphémère, fête de la musique. On fait la fête parce que pendant cet instant, on est dans la joie. Malheureusement, et on le voit quand on prépare un grand événement, un anniversaire, ou des choses comme ça, la tension monte, on fait la fête, et après ça redescend, et on sent qu'il y a quelque chose, c'est passé, c'est derrière, c'est quelque chose qui va pas rester, et les souvenirs vont rester, mais ces moments de joie, cette joie, elle reste pas parce que cette joie, elle est pas réellement ancrée dans ce que nous sommes, dans notre être. C'est pour ça qu'en tant qu'Église, en tant que chrétien, est-ce que nous, on fait la fête? Alors, je vais pas vous interroger si vous allez danser ou faire des choses comme ça, si vous allez aller au bal du 14 juillet, non. C'est, est-ce qu'on fait la fête tous les jours parce que nous appartenons à Jésus-Christ? Mais ça, c'est assez incroyable, hein. Quand on regarde, on dit, est-ce qu'on se saisit avec délice de la grâce que Dieu nous a faite en nous offrant son Fils Jésus-Christ? Alors, c'est sûr, je m'adresse à des chrétiens, là, et j'interroge ceux qui le sont pas. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Tu dois être dans la joie, non pas parce que ton corps va bien, ton compte en banque est excédentaire, ou il t'est arrivé des super choses, mais tu es dans la joie malgré tout cela. Si le Seigneur te donne tout ça, gloire à Dieu. Mais parce que tu es racheté à un grand prix. On connaît Dieu, créateur de toutes choses, comme un père. Est-ce que ça fait pas les délices de notre vie? Bon, j'avoue, quand j'ai préparé ce message, pas du tout. Ça ne fait pas du tout les délices de ma vie. Je suis bien loin d'être dans la joie que je devrais être, mais ça nous interroge. Est-ce que le dimanche, j'y vais en traînant les pieds parce que c'est le moment obligatoire? Ou est-ce que le dimanche, je suis heureux de venir retrouver mes frères et sœurs qui partagent cette même joie? Ou s'ils la partagent pas, je pourrais les aider en disant, hey, n'oublie pas, il y a la joie du Jésus-Christ, tu es racheté. Comme ça, si un jour, moi, j'y vais un peu tristounet, ils vont me dire, hey, n'oublie pas, tu es un enfant racheté de Dieu. Et ce matin, c'est un texte qui va nous inviter à ça, alors de manière très large. C'est un texte qu'on peut lire dans le psaume 98. C'est faire une fête pour Dieu, pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Dieu a déjà fait, Dieu a fait dans le passé, il fait encore maintenant et il fera. Et ça nous invite à lire ce psaume 98 dans la version Louis II, 21. Psaume. Chantez à l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut, il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe, au son de tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Poussez des cris de joie en présence du roi de l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Que les fleuves battent des mains, qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Voilà l'entièreté du psaume 1 à 9. Le psaume 98, je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole qui traverse les époques et qui va encore aujourd'hui nous interpeller. Nous interpeller sur ce que nous sommes, qui nous sommes et comment nous sommes appelés à vivre. Je te loue et je te rends grâce pour le salut que tu nous as obtenu en Jésus-Christ. Et ce matin, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour ce que tu vas encore nous dire au travers ta parole. Amen. J'ai dû appuyer sans le vouloir, pardon. Donc un mot du contexte, voilà, il n'y a pas d'auteur désigné de ce psaume. Et ce psaume, il fait partie, comme les psaumes qu'on verra par la suite, ce qu'on appelle les psaumes des chants du règne. Et on chante à l'Éternel qui règne éternellement. Ça fait partie de du quatrième livre, du troisième livre des psaumes. Voilà, on a quelque chose qu'on a intégré comme ça, d'un chant du règne. C'est un hymne à la gloire de Dieu qui règne éternellement. Comme un rappel, comme une piqûre de rappel au peuple à l'époque. Parce que ce psaume a été écrit il y a fort longtemps. Et il a traversé plusieurs siècles pour nous venir jusqu'à nous. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire encore aujourd'hui? Donc voilà, ça c'est juste un contexte, hein, un chant du règne pour encourager. Donc c'est un appel, une fête commémorative d'un peuple. Donc il y a un peuple qui doit se souvenir, un appel à chanter la grâce et les merveilles de Dieu. Hein. Donc ça c'est le début du psaume. Psaume, le verset 1, 98:1. Chantez en l'honneur de l'Éternel, un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. Voilà, l'auteur interpelle le peuple. Il dit, n'oubliez pas, chantez un cantique nouveau à l'Éternel. Parce qu'il a fait des grandes choses, il a fait des merveilles. Le peuple est sorti victorieux. Alors on peut se rappeler de la sortie d'Égypte, où Israël était en Égypte dans l'esclavage et à son bras étendu, l'Éternel l'a sauvé. Mais aussi, l'histoire d'Israël est émaillée de victoires miraculeuse sur ses ennemis, où Dieu a personnellement intervenu pour le sauver. Donc il a fait des merveilles. Et là, l'auteur interpelle, il dit, attention, nous sommes déjà sortis de situations critiques éternelles. Par l'Éternel qui nous a sauvés, Israël, réjouis-toi. C'est un appel à se souvenir. Souviens-toi de ce que tu étais, hein. Souvent dans la Bible, il dit, souvenez-vous que vous étiez esclaves et que l'Éternel vous a retirés. L'auteur de ce psaume invite simplement à chanter Dieu pour la délivrance obtenue. Chanter dans un cantique nouveau. Alors un cantique nouveau, c'est le cantique qu'on chantera au retour de Christ, mais c'est aussi ce cantique nouveau, c'est ne pas cesser de toujours chanter l'Éternel, de toujours se réjouir, non pas forcément, comme je le disais, de la situation d'Israël à l'époque de ce psaume, on ne sait pas quand il a été écrit exactement, mais c'est pour se souvenir, attention, tu traverses un moment pénible, Israël, mais souviens-toi, chante à l'Éternel, il t'a délivré. Il a fait des merveilles, commence par chanter. La victoire t'a déjà été accordée dans le passé. Sa main, son bras, sa main droite. Ici, il n'est pas question d'Israël qui se sauve lui-même. C'est chanter à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles. Le peuple doit se réjouir et se réjouit parce qu'il est délivré. On se souvient pour ceux qui s'en souviennent peut-être, lors de l'Exode, lorsque la mer se referme sur les troupes des ennemis, donc sur les troupes des Égyptiens, on a Myriam, qui est la sœur de Moïse, qui prend le tambourin et qui chante un cantique nouveau à l'Éternel. Elle est heureuse d'être délivrée. Et il y a un midrash, donc les midrash, c'est tout ce qui est fait, c'est tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible, hein, mais qui vient des sages juifs qui disaient, il y a Myriam qui se réjouit et Moïse, il se réjouit pas parce qu'il dit « Pourquoi tu te réjouis pas tout de suite ?» Parce qu'il dit « Parce que l'Éternel est triste d'avoir été obligé de tuer les Égyptiens. » Alors bien sûr, les midrash, c'est pas biblique, mais j'aime assez voir que malgré le jugement de Dieu, Dieu ne prend pas plaisir à la destruction, mais sa justice devait s'appliquer sur les Égyptiens. Mais il dit « Voilà, vous étiez sortis, il y a la joie d'avoir été délivrés. Vous avez été délivrés par l'Éternel. » Et nous aussi, on est invités alors à... Aujourd'hui, je pourrais vous dire, chanter en l'honneur de l'Éternel. Moi aussi, je chanterai. Hein, parce qu'il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré sa victoire. C'est aussi une victoire totale. Parce que la délivrance que Dieu nous a obtenue par grâce, elle est totale. Alors nous sommes nous aussi appelés, si nous croyons, de nous laisser interpeller par les merveilles de Dieu, de tous les jours. On en parlait hein, ce matin. On prend la santé pour acquise. Ah, ça va bien, c'est tout le temps comme ça, ça sera tout le temps comme ça. On prend ce qu'on a par la grâce de Dieu pour acquis. Maintenant, les choses peuvent tourner au vinaigre assez vite. Et on a vu pendant cette crise Covid à l'époque combien de gens ont perdu pied parce que leur vie bien réglée s'est venue perturbée par quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Et là, il dit, n'oubliez pas, vous traversez peut-être quelque chose, chantez un cantique à l'Éternel. On prend plein de choses pour acquis, la création pour acquise, qu'on ne l'entend même plus. Un pasteur qui se promenait à New York dans le Grand Central Park, il disait, Regarde autour de toi, il disait à un de ses frères. Il dit, tu vois, personne n'entend les oiseaux chanter. Dans le brouhaha de New York, il dit, voilà, dans le parc, pourtant, il y a un petit coin. Il dit, tu vois, pourtant, ils font pas beaucoup de bruit, les oiseaux, mais tout le monde s'en fiche. Il a sorti des pièces de sa poche, il les a laissées tomber par terre, tout le monde s'est retourné. Il a dit, tu vois, on entend ce qu'on a envie d'entendre. On fait plus attention. On fait plus attention parce qu'on dit, c'est normal. Dieu, c'est normal que tu fasses ça. C'est normal. Et là, l'auteur réveille autant le peuple qu'aujourd'hui, on peut être réveillé, nous. C'est pas normal. C'est une grâce. Et ça veut pas dire que je dois faire attention de marcher sur une corde raide. Non, non, il demande juste, réjouis-toi et chante à l'Éternel. Un cantique nouveau. Il dit pas, fais plein de choses, sois contrit. Non, non, il dit, chante. Attention. Souviens-toi. Tu passes peut-être par des moments difficiles, mais souviens-toi de la grâce de Dieu. Souviens-toi que l'Éternel a fait de grandes choses par sa main et son bras. La louange et l'adoration vont d'abord à l'Éternel. Tout comme le peuple, l'auteur, du coup, nous invite à entrer dans la louange de Dieu et à son adoration pour ce qu'il a fait. Ça peut être des moments difficiles, et des fois, on peut pas les comprendre. On passe des fois peut-être par des moments difficiles, mais voilà. Et il dit, c'est pas du bout des lèvres, c'est un cantique nouveau. Voilà, faites-le avec un cœur reconnaissant, brûlant d'amour. Sa main m'a saisi, son bras agit pour moi. Chantons un cantique nouveau, peut-être pas de la bonne manière. Des fois, on aimerait que le bras de Dieu agisse selon notre cas. Mais c'est là qu'il faut. Qu'est-ce que tu fais? Non. Il dit, il l'a fait et il le fera. Et donc, après qu'on ait chanté, voilà, appel à chanter l'Éternel, un peuple qui se souvient des grâces, et nous aussi, nous sommes alors appelés à nous réjouir. Et après, c'est un appel à célébrer son salut. Ça, c'est la suite, 2 et 3. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Et là, l'auteur, il dit, vous vous souvenez que tout le monde avait peur de Dieu. Lors de la conquête de Canaan, Jéricho, il tremblait alors que Israël n'avait pas encore venu par Josué. Et Josué devait mener la barque. Et ils avaient peur déjà du Dieu d'Israël, parce qu'il dit, oh là là, t'as vu toutes les choses qu'il a faites, t'as vu comme il a l'Égypte, comme il a détruit l'Égypte. Vous avez vu le salut qu'il a obtenu, il a sauvé son peuple, hein, c'est le salut qu'il a obtenu pour son peuple. On a peur. Et à l'époque, Jéricho, toute la contrée du pays promis, puis un peu plus loin, c'était le monde, hein. C'était le monde, il a révélé, il a fait connaître son salut. Donc on peut reprendre ça, mais aussi David, Salomon. Les gens qui étaient connus, Salomon était connu sur toute la terre connue de l'époque. C'est-à-dire des gens venaient très loin pour écouter la sagesse et pour se rendre compte que ce petit peuple qui n'était rien, eh ben il a été sauvé par un Dieu si grand. Et il a été sauvé non pas parce que Israël le méritait, mais parce qu'il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Et là, c'est l'auteur, il dit, voilà, vous laissez pas avoir. Souvenez-vous du salut acquis. Souvenez-vous comment Dieu a agi. Souvenez-vous que c'est lui qui vous sauve, en fait, c'est ça le salut. Hein. C'est lui qui vous sauve. Il a fait connaître son salut. C'est lui, c'est le Dieu sauveur. On voit où je veux en venir pour nous. Hein. L'Éternel qui sauve. C'est Yeshua, l'Éternel sauve. C'est Jésus. Mais là, à l'époque, c'était pas encore. Et il dit, voilà, je vous ai fait connaître mon salut, Israël. Pourquoi t'as peur? Sois dans la joie, sois dans l'allégresse. Il nous a révélé sa justice. C'est lui qui sera notre justice. À la reconnaissance, chante donc un cantique nouveau à cause de ça. Non pas à cause de toi, mais parce qu'il a fait connaître son salut. Parce qu'il a révélé sa justice aux yeux de toutes les nations. On en parlait tout à l'heure. De cette justice qui est tombée et sur l'Égypte et sur les peuples qui ont été jugés par Dieu. Et ça a fait trembler l'époque. À l'époque, ça a fait trembler. Et quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas ce Dieu-là. Je me disais, mais pourquoi il y a plein de guerres? Parce que la justice de Dieu ne peut se séparer de son amour, de sa fidélité, de sa bonté. Dieu, il est tout à la fois. Et il dit, voilà, ça c'est la reconnaissance. Vous vous souvenez, Israël, où vous étiez. Il vous a sauvé. Donne gloire à ton Dieu, parce que même nous, aux extrémités de la terre, on l'a vu. Nous, on a vu le salut de Dieu, il nous a sauvés. Il nous sauve encore. Quand on lit tous les juges, on voit à quel point Israël prie à Dieu, et il envoie un juge, et un juge délivre. Il sauve. Et après, Israël continue de pécher, et Dieu, sauve encore. Et c'est tout le temps comme ça. Si ça nous rappelle un peu notre vie, c'est normal. On est tout le temps comme ça. On crie à Dieu, Dieu agit et hop, parfois on oublie. Parce qu'on ne peut réellement marcher que par le Saint-Esprit. Et ça, ça viendra après. Parce que ça nous rappelle à nous de chanter un cantique nouveau. Parce que c'est un appel qui résonne. Est-ce que moi, j'ai vu le salut de Dieu? Alors personnellement, là je parle pour moi, oui, en Jésus-Christ. Mais si vous, vous l'avez vu, alors célébrez-le aussi. On a vu son salut, et tout le monde l'a vu. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde l'a vu, ou tout le monde le connaît. Quand cette croix s'est dressée sur mon Golgotha, le salut offert à tous les peuples de l'époque, sur toute la terre. Alors le psalmiste ne le savait peut-être pas quand il écrivait, hein, mais toutes les extrémités de la terre ont connu Jésus-Christ. Jésus a été amené partout, la croix a été amenée partout. Et Dieu a donc fait connaître son salut. Dieu a fait connaître son salut et sa justice, non seulement là, sur les extrémités de la terre de l'époque, mais sur toutes les extrémités de la terre d'aujourd'hui, ou presque. Jésus-Christ a été prêché dans de nombreuses contrées. Donc nous ne serions pas là si ce Messie n'était pas venu. Si ce Fils de Dieu n'avait pas été crucifié, n'avait pas été ressuscité, et assis à la droite du Père, nous ne serions pas là. Et aujourd'hui, tout le monde connaît l'histoire. Après, est-ce qu'il est fils de Dieu? Ça, c'est un problème. Mais nous, en tant qu'Église, on l'a vu, ce salut. Et on sait qu'il se souvient de la bonté et de la fidélité envers la communauté d'Israël. Et je permettrai même de dire la communauté d'Israël et de l'Église. Ça, c'est ce nouveau peuple que Jésus a fait, qui comprend une partie d'Israël et une partie de l'Église. Et il dit, voilà, ça, c'est sa justice, ça, c'est ce qu'il a fait pour moi. Est-ce que cela ne me pousse pas alors à donner à Dieu un cantique nouveau, à lui chanter ça, à le louer, à l'adorer, avant même autre chose? Est-ce que ça brûle pas dans notre cœur en disant, waouh, Dieu s'est souvenu de nous, dans sa bonté, dans sa fidélité. Jésus dira, il faut aussi des bergeries. Quand il parle dans Jean 10, il dit, je suis le bon berger. Il dit, j'ai des bergeries, j'ai des moutons de cette bergerie, mais aussi d'une autre bergerie. Il est conscient que son sacrifice va dépasser la vision d'Israël. Et il s'est souvenu de nous. Moi, je dis, waouh, un Dieu créateur de toutes choses, il se souvient de sa bonté, de sa fidélité qu'il a envers nous. Et il nous offre sa grâce. Et on voit son salut dans nos vies, tous les jours. Mais alors ça nous pousse à la joie. Ça nous pousse à chanter un cantique nouveau. Au-delà, oui, bien sûr, des choses qui peuvent arriver. Et ça, c'est vraiment un appel à la réjouissance. Si Dieu t'a fait connaître aujourd'hui son salut, sois heureux. Tu es fils du Dieu vivant, co-héritier avec Christ. Il y a des gens qui se battent pour un héritage futile de monde. On voit, ils se déchirent pour récupérer, alors c'est beaucoup d'argent pour nous, quelques, des millions, mais c'est que dalle en fait, comparé à l'héritage promis en Jésus-Christ. Et ça, c'est en fait, ce psaume nous invite à nous réjouir de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu fera, là on y vient, pour ne pas nous laisser endormir dans tout ce que nous avons, en disant oui, je suis chrétien, mais on s'enferme dans une vision qui parfois nous empêche de nous réjouir, parce que il y a tous les soucis de la vie, ça pèse, et on oublie, on se dit tiens, et on a besoin de ces piqûres de rappel, comme Israël a besoin de chanter ses psaumes pour se souvenir de là où il était, de la grâce de Dieu. C'est une joie que nous devons avoir, non pas par les circonstances, mais par la vérité que Dieu nous a assénée en Jésus-Christ et nous a fait connaître, qui dépasse toute autre chose. C'est pas évident, mais c'est ce que nous sommes invités à faire, voir le salut de Dieu. Et nous sommes ceux des extrémités de la terre, voilà, moi je viens pas de très loin, mais il y a des gens qui se sont convertis très loin. Nous sommes ceux qui peuvent rendre gloire au Dieu d'Israël, de la communauté d'Israël. Il y a des gens qui étaient venus de Papouasie en Israël, et ils étaient venus donner lors d'une communauté des amis d'Israël, c'était tous ceux qui aimaient Israël étaient revenus à Israël pour donner, connaître un peu, ils étaient messianiques, hein, bien sûr, mais ils disaient, voilà, et des gens qui sont venus de Papouasie, ils disaient, c'est les extrémités de la terre, les rabbins qui sont pas forcément, eux qui ne sont pas forcément en Jésus-Christ, ils ont vu quelque chose d'accompli là, ils ont vu, waouh, tous les peuples sont venus apporter quelque chose en Israël, comme les promesses des prophètes. Donc c'est quand même quelque chose qui, voilà, qui nous amène, qui nous interpelle à la joie. Et il y a aussi la fête d'anticipation, parce qu'en fait, il ne s'arrête pas là, l'auteur. Il dit, voilà, on pourrait déjà s'arrêter là, c'est super, hein, on est déjà chaud, enfin, je sais pas vous, moi oui. Mais voilà, on dit, ouais, Seigneur, tout ce que tu as déjà fait pour nous. Mais le psalmiste s'arrête pas là, il dit, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe, et au son de tous les instruments. Au son des trompettes et du cor, poussez des cris de joie en présence du roi, l'Éternel. Voilà, alors, ça, tout le monde est appelé à louer Dieu et à célébrer l'Éternel. Là, on sort du cadre, vous voyez, c'est une anticipation de tous les peuples. On sort du cadre de la communauté. La fête va se répandre partout. Il y aura de la louange, des cris de joie, de la musique au Dieu d'Israël. Alors le mot en hébreu, c'est les chauffards, hein, le son de tous les instruments. Il y a aussi la harpe, il y a le corps c'est le chauffard, et c'était réservé que pour les... C'est que pour les fêtes religieuses. On sonne du chauffard. Donc, en disant ça, on se dit, tiens, il y a quelque chose aussi de... Voilà, il y a une fête, c'est vrai, mais c'est une fête pour l'Éternel. Et donc, il y a quelque chose qui nous rappelle ces moments solennels de la justice de Dieu, de la louange à Dieu. C'est une fête pour lui, en son honneur. Tout ce qui a été fait pour... Tout ce que Dieu a fait pour nous est reconnu. Nous louons l'Éternel, et il y a une anticipation en disant que ce salut et sa justice seront connus au-delà, c'est ce que je disais. Le psalmiste, il dit, un jour, nous, communauté d'Israël, on loue le Seigneur, voilà, mais un jour, d'autres le feront, ils vont pousser des cris de joie des habitants de toute la terre. Alors, toute la terre, c'est toute la terre, pas tout le monde dans la terre, mais c'est-à-dire que tous les peuples vont faire éclater des chants d'allégresse. Tous les peuples vont se réjouir, tous les peuples vont prendre la harpe et les instruments. Et il dit bien, en présence du roi, de l'Éternel. Il y a quelque chose de solennel, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'honneur de l'Éternel ou une partie du monde qui reconnaîtra que l'Éternel est Dieu. Et c'est une fête d'anticipation en disant, ben oui, un jour, d'autres personnes vont aussi se réjouir de ça. Au son des cors, au pousser des cris de joie, en présence de l'Éternel. Et ce matin, on croit que le Seigneur est présent ici. Déjà, il est présent en chacun de ceux et celles qui sont convertis par le Saint-Esprit. Le Seigneur est là. Et il dit, ben, au son des cors, au son des trompettes, chantez un chant à l'Éternel. Des moments où l'auteur nous invite à pousser des cris de joie en présence de l'Éternel. C'est vraiment quelque chose aussi de solennel. On peut le faire chez nous, on peut le faire en famille, bien sûr. Mais là, il y a quelque chose de communautaire. Il y a quelque chose qui nous invite à le faire ensemble. C'est une vision accomplie, bien sûr, comme je le disais, en Jésus-Christ. Jésus-Christ a rétabli cette unité qui nous séparait, hein, qui séparait la communauté d'Israël de toutes les autres. Et c'est ce qu'il dira en Éphésiens 2, hein. Il dit, Paul dira, des deux, il n'en a fait qu'un. Il a brisé le mur d'inimitié qu'il y avait entre vous. Voilà. Alors, c'est pas encore bien consolidé, mais disons que ça se construit. C'est une vision d'un peuple qui est plus large que la communauté d'Israël. Un jour, le peuple de Dieu se réjouira devant l'Éternel. Alors, pour le psalmiste, c'était du futur. Il dit, un jour, il va y avoir une communauté en dehors. Pour nous, si on le lit comme ça, c'est du présent. Et si on le lit au futur, ça sera lors de son retour, où là, tout le monde le louera. Mais nous, on était déjà des gens du dehors. Hein. Vous savez, dans Éphésiens 2, il définit ce que nous étions. Vous étiez des gens du dehors, étrangers aux alliances, pas le droit de citer à Jérusalem, donc on ne pouvait même pas aller à Jérusalem. C'est-à-dire, on n'avait rien du tout. Et il dit, voilà ce qu'a fait Jésus. Il a rétabli. Il a rétabli. Il a dit, maintenant, il n'y a plus de différence. Je brise en ouvrant le voile, il dit, maintenant, il y a un libre accès. Il y a un libre accès en ma personne. C'est la fête à l'Éternel. Une fête d'anticipation pour le psalmiste ou pour nous, c'est la fête qui arrive. Mais c'est vraiment la joie de se dire, ah, oh, Seigneur, je ne suis pas seul. Des fois, on vit une fois un peu seul. Je ne suis pas seul. J'ai des frères et sœurs, j'ai des personnes autour de moi qui connaissent ton nom et qui chantent. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas se savoir seul. Parce que ces versets qui étaient d'anticipation de ce peuple que Dieu a racheté en Jésus-Christ nous amènent à cette grande fête de fin. À nous, on se réjouit, Jésus va revenir. Ça, c'est le peuple qu'on s'est acheté, une participation chaque jour, oui, par la grâce du Saint-Esprit. Et comme je disais, c'est aussi cet aspect communautaire que le psaume nous amène à communauté à louer le Seigneur. Et là, c'est la grande fête. Ça, par contre, c'est encore pour nous, c'est encore du futur. C'est les derniers versets du psaume. Je ne les ai pas mis. C'est le psaume 98, donc 7 et 9. Il dit que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent, que les fleuves battent des mains, qu'avec eux toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Donc là, on a déjà un super programme que le psalmiste nous a décrit. Un appel à louer Dieu pour son salut, sa justice, cette louange qui va s'éparpiller dans tout le monde par la grâce de Jésus-Christ, enfin par le salut obtenu en Jésus-Christ. Mais il y a un plus, il y a attention Israël et attention Église, un jour il y a une délivrance finale. Ça c'est la délivrance de la création, c'est comme ça que j'ai appelé. Il y a une délivrance qui va être une délivrance qu'on n'a jamais, jamais, jamais vue encore. C'est quelque chose qui éclipsera tout ce qui s'est déjà passé. Alors là l'auteur il dit que c'est bien. Alors j'imagine, c'est sûr, il l'écrit, lui il a la joie du Seigneur. Mais pour ceux qui ne le sont pas, ça ne va pas être super cool. Mais là il dit, voilà un jour, il y a une délivrance finale. Au moment que seul Dieu connaît, cette création merveilleuse hein, va être libérée, va être régénérée. Et c'est pour ça qu'il met toute cette création. Vous savez, la Bible nous dit que l'apôtre, il dira, elle a été soumise dans Romains 8, 20, 22, hein, c'est Paul qui écrit à l'église de Rome, il dit « En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. » Voilà, la création a été soumise par la brisure du péché. Et cette création aspire à un changement. Et c'est pourquoi, dans ce psaume, mais dans d'autres aussi, on le voit, la mer retentit. Alors moi, j'ai jamais entendu la mer retentir. Hein. Là, j'ai pas vu de fleuve battre des mains. Et les montagnes poussaient des cris de joie. Comprenez, le psalmiste n'est pas entendu dire littéral, c'est quelqu'un qui comprend rien, c'est un ignare. Non, non. Il est conscient qu'on ne peut pas décrire ce qui va se passer. Il dit juste, ça va être tellement incroyable, eh ben, que les images pour les décrire le son. C'est quelque chose qui nous dépasse, et encore aujourd'hui, le retour de Christ, parce que c'est ça, hein, devant l'Éternel, ça c'est le verset 9, « Car il vient pour juger la terre. » Et nous, on connaît celui qui vient revenir juger la terre. La première fois, il était venu pas juger. Il a dit « Je suis pas venu juger, mais il est sauvé. » Quand il revient, Jésus, il va venir juger la terre. Et là, il jugera le monde avec justice, la sienne, qu'on a déjà appelé à louer par sa justice. Et les peuples avec droiture. Il n'est pas en train de dire, je vais être l'ami de tout le monde. Parce que des fois, on se dit, oui, mais Jésus, voilà, il y a des Jésus New Age, où Jésus, il arrive, il serre la main à tout le monde, finalement, tout le monde est bien. Ah non, c'est pas ça qu'il est décrit dans l'Apocalypse. Hein. C'est une personnalité très puissante dans l'Apocalypse. Encore, ce sont des images avec une épée, avec des yeux de feu, avec des jambes en feu. Ah, c'est pas le gentil Jésus. Parce qu'il vient pour juger, là. Et le jugement ne peut s'accompagner que, malheureusement, bah, parfois de sentence. Si un juge, parce que souvent j'ai cette discussion avec des gens qui ne sont pas croyants, je dis, mais si Dieu ne juge pas le monde, alors c'est pas juste. Imagine quelqu'un écrase ton fils, il n'est pas jugé. Parce qu'on dit, ouais, bah, écoute, il a pas fait exprès, sa voiture avait plus de frein, après tout, on va pas le mettre en prison. Tu seras pas content, tu seras frustré. Je dis, c'est pas juste. Mais si Dieu est justice, il est obligé de juger. Il le fait pas, il le fait jamais avec, comme nous, des fois, on peut un petit sourire, les jugements, enfin. Non, il le fera pas avec forcément une joie, il le fera dans sa justice. Comprenez que la justice, l'amour, la grâce, le pardon, tout ce qui fait Dieu ne peut pas être terni de nos pensées. Dieu, il est dans sa perfection, on ne peut pas lui dire « Ah ben, tu devrais juger comme ça ou comme ça ». Non, quand Christ va juger, il jugera avec justice. Et tous les peuples le reconnaîtront. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, c'est pas juste ce que tu es en train de dire. Si. Ça sera le Dieu, il va venir juger en Jésus-Christ. Et là, au lieu de le mettre du côté, c'est terrible, parce que les prophètes, hein, on en parlait, de ce jour de l'Éternel. Là, il dit, ça c'est un jour où il va juste, nous, va pousser des cris de joie avec la création. Et il y a déjà nous, Israël. Il y a d'ailleurs ce peuple qui a été racheté en Jésus-Christ. Et il va y avoir la création. Tout le monde va être appelé à la joie. Là, c'est plutôt sur l'aspect de la joie et de la délivrance. Parce que c'est l'asservissement qui est fini. Des fois, j'ai du mal à le comprendre, nous. Parce que nous, on est nés avec notre nature, on va avoir du mal. Quand la Bible parle, il n'y aura plus d'armes, il n'y aura plus de péché. C'est dur à imaginer, parce que nous, on a toujours en tension avec le péché, avec les choses, c'est difficile. C'est difficile. Mais là, le psalmiste, il est en train de demander la joie au peuple parce qu'il dit, un jour, tout ceci, ça va être fini. Un jour, tout ceci, ça s'arrêtera. Non pas les bons côtés, c'est-à-dire vous allez continuer à vivre, mais vous ne vivrez plus dans cet asservissement. La création sera renouvelée. Quelque chose de nouveau arrive, parce que c'est le roi qui vient juger, et il juge avec sa justice. Et sa justice, on l'a déjà vu. Il a dit, c'est sa justice, c'est lui qui a agi. C'est son salut qu'on a vu. Donc il n'a pas peur de la justice de l'Éternel, ce psalmiste. Et il demande à ceux qui l'écoutent, vous non plus, mettez-vous en règle devant Dieu, et vous n'aurez pas peur de ce juge qui vient. C'est une belle promesse, en tout cas, qui arrive, parce que nous sommes nous aussi concernés par cela. Aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, nous sommes concernés par cette victoire que Christ a obtenue tout seul. Il n'a pas besoin de moi. Mais il vient et veut nous faire partager son règne, et ça, c'est magnifique. Donc, c'est plus la fête d'un peuple, c'est plus la fête de nations, c'est la création entière qui est renouvelée. La création entière, une délivrance finale. Et si nous croyons cela ce matin, c'est vraiment important. Vraiment important de nous rester dans la joie de cette délivrance qui vient. Oui, Dieu vient juger la terre en Jésus-Christ. Même si le monde le nie, le monde n'a pas envie d'être jugé par Jésus-Christ. Si vous dites demain, ah, peut-être demain, parce que demain il n'y a pas de boulot, mais mardi, ou si ce soir au bal vous parlez de Jésus-Christ, les gens vont vous dire, ouais, c'était un homme sympa, mais jamais ça sera le juge. Personne ne veut être jugé en Jésus-Christ. Ou sinon on dit, ouais, mais c'est parce que tu vois, j'ai pas volé, j'ai pas tué, ça va. Parce qu'on a une conception de Dieu qui s'arrête à ça. Mais un auteur disait, il était en Turquie, et il dit, il était dans le... Parce que justement, hein, cet homme lui posait la question en disant, la justice de Dieu, qu'est-ce que c'est? Il dit, bah, imaginez, moi je vous mets une claque, qu'est-ce que vous me faites? Il fait, bah, je vous sors de mon taxi. Il dit, maintenant, je mets une claque à cet officier de police. Il dit, là, vous avez en prison. Il fait, je mets une claque à votre président. Il fait, bah, là, vous avez risqué votre vie. Il dit, vous voyez, vous comprenez, à chaque fois, je n'ai mis qu'une seule claque. C'est-à-dire que, il n'y a pas de graduation dans la faute. C'est toujours une claque. Ça reste violent, mais c'est qu'une claque. Mais il dit, c'est la personne qui change. C'est la stature de la personne. Il dit, si vous offensez Dieu, qu'est-ce que c'est si ce n'est la mort? Et ça l'a fait réfléchir. Parce que toute offense à Dieu est une offense de mort. Parce que Dieu, il est parfait. On peut pas dire, ça c'est moins grave que ça. Les offenses face à un Dieu saint nous coupent de sa réalité. Et c'est pour ça, il dit, le salut est apporté en Jésus-Christ pour nous. Et on sait qu'un jour, la création se réjouira aussi. Jésus-Christ viendra juger ce monde. Alors nous, pour la joie, j'espère, ceux qui sont là, pour d'autres, malheureusement, pour le jugement. Mais il y a de quoi appeler à se réjouir. En tout cas, moi, c'est une belle promesse. En préparant cela, je me suis rendu compte à quel point je me laisse entraîner dans tout un tas de choses qui peuvent être difficiles, et je ne nie pas, mais de se dire, waouh, si je remets les choses en perspective, Seigneur, pardon de me laisser piquer ma joie. De me laisser piquer ma joie. Voilà, donc pour conclure, voilà ces versets qui ont été écrits il y a plusieurs siècles, hein. Eh bien, nous interpelle quand même sur la réalité que Dieu nous invite en tant que Dieu à faire la fête. Une fête qui lui rend honneur. C'est pas une fête pour une fête, hein, c'est une fête qui lui rend honneur. Parce que nous sommes sous sa grâce, comblés de bienfaits, même si on ne le voit pas toujours. Ici, ce psaume nous appelle à la joie, à la louange. Je ne vis pas une fête parce que tout va bien dans ma vie. Je vis une fête parce que tout ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est pas le même regard, et c'est pas un regard facile à avoir, de se réjouir tout le temps. J'ai été sauvé par Jésus-Christ, le salut et la justice de Dieu incarné. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, je suis sauvé, je suis maintenant son enfant. Alors je suis invité à vivre cette fête, déjà maintenant, en anticipation de la délivrance finale, parce qu'un jour je serai à ses côtés éternellement. Waouh ! Gloire à Dieu ! Quelle fête ! Il y a un livre qui s'appelle « La fête super géniale qui ne finira jamais pour les enfants ». Et voilà, il y a tous les... Bon, après, le problème de la discussion, c'est si elle finit pas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la problématique des hommes finis que nous sommes aujourd'hui. C'est que si ça finit pas, bah, c'est long. L'éternité, c'est simple à comprendre. Mais alors, à imaginer, on perd pied. Hein. Parce que l'éternité, mais ça finit quand? Bah, jamais. Voilà, c'est le principe de l'éternité. Mais c'est dur à conceptualiser. Et là, cette fête, on nous y sommes invités, quelle grâce. En réponse, nos cœurs doivent être prêts à louer, adorer notre roi, à chanter un cantique nouveau, même quand c'est difficile. Non pas parce que mes circonstances sont dures, alors Dieu, ben, je te loue pas, point. C'est mon réflexe. Je ne savais pas, je prie pas. Mais là, il dit non, non. Regardez tout ce qui a déjà été fait et tout ce qui est promis. Ce matin, la vie est peut-être difficile pour toi. La Bible ne nie pas la souffrance, ne nie pas les problèmes, elle ne dit pas ça n'existe pas. Mais au regard de la grâce que nous avons en Jésus-Christ, ben, je t'invite, je nous invite à nous réjouir. Et à te poser la réelle question, es-tu heureux de la vie que tu as? Ou s'il te manque Jésus-Christ? C'est possible. Parfois, on est heureux de notre vie jusqu'au jour où on voit qu'on a du mal à être dans la joie tout le temps. Et comme un rappel, j'aimerais nous terminer par cet encouragement de Paul à la lettre aux Philippiens. Une lettre aux Philippiens qui est une lettre un peu d'adieu. C'est une lettre de l'amitié, mais c'est une lettre d'adieu. Paul ne reverra plus les Philippiens, il va mourir. Et tout le monde le sait à peu près, hein, c'est quasiment sûr, même s'il espérait peut-être être sauvé, enfin être ramené à eux, mais il y a de grandes chances qu'il soit condamné. Et en Philippiens 4 et 5, voilà ce qu'il leur dit. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Donc un encouragement pour nous, c'est la fête. C'est pas toujours la fête dans la vie, mais c'est toujours la fête dans le cœur régénéré en Jésus-Christ. Et c'est aussi ça qu'on veut aussi commencer ses vacances en se disant hey, « Il va y avoir des fêtes, il va y avoir des moments de relâche, mais n'oubliez pas, n'oublions pas que la fête, elle est permanente pour ceux qui sont en Jésus-Christ, malgré les difficultés. » Voilà, je vais finir seulement en priant.